Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous accueillons Estelle sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Estelle.
Bonsoir Olivier.
Merci de nous avoir appelés pour vous raconter et pour partager votre vie, en fait, un moment de votre vie qui a été, on va le voir, très compliqué. Et nous allons voir si vous en avez tiré certains enseignements de femmes. Vous avez 40 ans, Estelle.
C'est ça.
Et vous avez été victime de violences conjugales. Comment,
oui.
Comment d'abord, avez-vous rencontré l'homme avec qui vous avez passé 19 mois d'enfer, comme vous le dites? Quand vous le rencontrez, où et comment, comment se fait cette rencontre?
Ben, moi, je le rencontre suite au déménagement. J'ai changé de région, j'ai fait un changement de région à un moment pour un besoin professionnel.
Oui.
Et j'ai fait le transfert de mes papiers à ma nouvelle banque, à ma nouvelle agence, et c'était mon conseiller financier, en fait.
D'accord. Donc, lorsque vous le rencontrez, c'est un coup de foudre ou tout ça va progressivement?
Non, ça va vite. Lui, ça va vite parce qu'il m'a fait une cour insistante et il avait toutes mes informations personnelles, de mon téléphone portable à ma situation financière. Donc du coup, il était là tout de suite, omniprésent, à vouloir un rendez-vous pour me proposer tout un tas d'avantages, enfin des choses comme ça. Et puis voilà, après. Voilà, c'était le conte de fées. Il a voulu tout de suite. J'étais la meilleure, j'étais la plus belle, j'avais toute une liste de qualités que toute femme rêverait d'avoir pour une personne comme lui qui respirait la prestance à ce moment-là, quoi.
Oui.
Mais bon, c'est pas le cas.
Vous avez une fille, hein, qui a bientôt 19 ans.
Oui.
À cette époque, elle a quel âge, votre fille ?
À cette époque, elle a 13-14 ans.
Oui.
Voilà, donc moi, elle était au collège et puis bah, je faisais très attention parce que je ne voulais pas lui présenter n'importe qui, n'importe comment. Et puis cette personne-là, tout de suite, s'est rendue accessible pour elle, accessible pour moi. Enfin, il n'a pas d'enfant. Enfin, à l'époque, il n'avait pas d'enfant. Je ne sais pas aujourd'hui, je m'en fous. Mais... voilà, c'était tout se déroulait parfaitement, tout allait très vite après, une fois que j'avais ouvert ma porte dans tous les sens du terme.
Oui.
Il s'est très vite installé chez moi, il a très vite déménagé des affaires, son chat, et puis voilà, sous prétexte que c'était pas pratique d'avoir deux appartements, sous prétexte que c'était plus simple d'être tous les deux au même endroit, pour les voitures, tout un tas de bons arguments sur le papier.
Mais sous prétexte, en fait, que vous vous aimiez peut-être aussi tous les deux à cette époque.
Lui, il m'a fait croire qu'il m'aimait. Il me montrait tout un tas de choses et puis moi je me suis laissée avoir aussi. Je me dis oui, moi aussi j'ai le droit d'être heureuse, moi aussi j'ai le droit qu'un homme soit amoureux de moi. Donc voilà, je me suis aussi laissée faire.
Vous étiez amoureuse de lui à l'époque?
Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Et puis après, il y a eu une emprise assez rapidement parce que les premiers soirs où il est venu chez moi, moi, c'était pas du tout dans mes habitudes de dormir avec un homme le premier soir. Et le lendemain matin, il m'a dit, de toute façon, si t'avais pas cédé, j'avais les moyens de te faire lâcher un moment ou un autre, donc sous prétexte de sa profession, en fait.
Oui, d'accord. En fait, il faisait référence souvent à l'argent, finalement.
Voilà, oui, oui. Ah ça a été ça tout du long, quoi. Mm-hmm. Tout du long, à la fin, c'était, de toute façon, tu te retrouveras toute seule à la rue avec ta seule gamine, t'auras plus rien. Et puis, je me suis vraiment retrouvée sans rien. Il m'a, sous prétexte de racheter l'entreprise de ses parents, j'y ai mis toutes mes économies. Nous, on avait une maison ensemble, il m'a fait signer des crédits pour la maison. Pour l'entreprise, j'avais plus de voiture puisque ma voiture avait été mise sous le nom de l'entreprise. Donc moi, je me suis retrouvée littéralement sans maison, sans travail, à pied. J'avais sauvé ma peau et celle de ma fille en une heure, quoi.
Alors, avant que nous rentrions plus dans le détail de l'emprise de cet homme et de cet enfer qu'il vous a fait vivre le temps de cette relation, bien sûr, comment vous vous décririez à l'époque? Quelle femme étiez-vous il y a 5 ans maintenant.
Je travaillais dans une concession automobile, je gagnais bien ma vie.
Oui.
J'allais être responsable dans un poste, c'était vraiment charnière, c'était vraiment au moment où j'allais prendre des responsabilités puis la direction de cette entreprise. Donc du coup, j'étais quelqu'un qui donnait envie. Après avoir décortiqué avec l'association qui m'a pris en charge et le soutien psychologique que j'ai eu, j'étais un trophée, un emblème pour un homme comme lui.
Est-ce que vous aviez, jusqu'à ce que vous rencontriez cet homme, vous aviez vécu des histoires, plusieurs histoires, ou comment vous décririez votre vie de femme avant ?
Bah, j'ai été mariée pendant 7 ans avec le père de ma fille.
Oui.
Et puis après, il y a eu un divorce. Enfin, c'était du désamour. C'était pas non plus. Il y avait rien de dramatique.
D'accord.
En fait.
Vous n'aviez jamais vécu jusqu'à présent des situations de violence.
Non, non, non. Alors après, il y avait le terrain familial, mais ça s'est décortiqué après avec la psychothérapie. Après le trauma, en fait.
Qu'entendez-vous par là, le terrain familial, c'est-à-dire ?
Moi, j'avais vécu des violences familiales en étant enfant.
D'accord.
Mais j'avais surmonté tout ça, et voilà. Je pense qu'après, avec le divorce, avec tout un tas de choses, on se reprend tout ça dans les dents, et arriver à un tel niveau de violence, moi, je n'ai pas tiré la sonnette d'alarme psychologique avant, parce que j'étais habituée à des violences étant petite.
Oui. Ce que vous entendez par là, c'est que vous aviez une certaine habitude de ces violences, parce que lorsqu'on est enfant et que l'on vit certaines violences, on pense que bien, le monde est comme ça, hein, qu'on se comporte comme ça.
Que c'est comme ça, que c'est tolérable, que c'est normal, et pour que ça tire la sonnette d'alarme psychologique, il faut y aller beaucoup plus fort que ce qu'on a vécu en étant petit, quoi. Donc, voilà.
Et donc, ces premières violences, en fait, est-ce qu'elles sont psychologiques ? Parce que lorsque vous parlez de cet homme, j'ai l'impression que c'est plus psychologique. Il s'impose, cet homme. Vous dites qu'il vient très vite dans votre vie, mais voilà, on a le sentiment qu'il s'impose plus que, vous voyez, qu'il s'installe.
Oui, 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 il s'installe, il s'impose, il s'incruste, et toujours sous couvert, sous prétexte de l'argent, pour dépenser moins, pour que ce soit plus pratique économiquement, pour avoir accès à ma chambre, à mon lit, pour que j'ai pas de problème financier après, parce que j'étais dans l'attente d'un prêt, parce que je sais plus pour quel prétexte il m'avait menacé à l'époque. Il y a aussi une part où j'ai tourné la page et où voilà, mais voilà. Les violences économiques sont arrivées très rapidement, mais c'était psychologique au début, oui.
Donc cet homme vous met la pression économiquement, en fait, il vous fait peur, oui. Il vous impressionne sur votre
oui.
Situation.
Oui, parce que malgré la force apparente, j'étais une mère à élever une adolescente seule, et quand il n'y a qu'un revenu, même si on gagne bien sa vie, on est toujours inquiète en étant maman.
Bien sûr.
Donc j'ai joué sur cette corde-là.
Les premières violences, donc elles sont d'ordre psychologique, cette pression.
Oui.
À partir de quel moment, en fait, vous vous souvenez des premiers gestes déplacés, des premières violences physiques ?
Alors, à partir du moment où on avait décidé ensemble de reprendre l'entreprise de ses parents qui allaient partir à la retraite, on a déménagé, j'ai rechangé de région pour venir habiter où je suis actuellement,
oui.
Pour reprendre l'entreprise de ses parents. Et à partir du moment où j'ai été vraiment coupée du peu de famille qui me restait, là, c'était on-off, quoi. Ça a été vraiment économique x10. J'avais plus de carte bancaire, j'avais plus que de l'argent de poche. Mon salaire, je le touchais plus, c'était sur le conjoint. J'avais pas de carte bancaire sur le conjoint. Et puis dès que ça n'allait pas, dès que ça lui convenait pas, c'était privé de tout. Il m'offrait des cadeaux, Il me convoquait dans le bureau et puis il me disait bah, tu vois, regarde, il allait sur un site de vente. Il disait voilà, bah, tu n'as pas été gentil avec moi, tu as fait ci, tu as fait ça, donc du coup, je suis obligée d'être coercitif. Bah, voilà, j'ai vendu ce que je viens de t'offrir, donc les cadeaux de luxe, hein, parce qu'il avait un niveau de vie incroyable. Voilà, c'était violence économique. Et puis après, bah, c'était, il m'imait des coups de couteau qu'il me donnait dans le dos, il m'étranglait avec le coude. En roulant, il me donnait des coups de poing dans le genou quand il passait les vitesses parce que, soi-disant, je le gênais. Plusieurs fois, je me suis vue prendre... J'avais des touffes de cheveux dans sa main parce qu'il m'avait attrapé la tempe gauche et puis il m'avait envoyé la tête valser contre la fenêtre de la voiture. Enfin, c'était... Quand il était stressé par un rendez-vous professionnel où on allait pour l'entreprise, là, dans la voiture, à l'aller, je m'en prenais plein la figure dans le sens littéral du terme. Violemment, physiquement et psychologiquement.
Comment est-ce que, dans votre tête, ça se passait parce que, est-ce que vous étiez consciente je dis ça par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur les violences que vous avez vécues étant enfant. Parce que On dit, et il faut dire à toutes les femmes qui nous écoutent que dès le premier coup, je dirais même dès la première violence psychologique, il faut réfléchir à partir, en tout cas préparer ce départ. Est-ce que vous étiez consciente, avant même que ces violences physiques arrivent, que vous viviez quelque chose qui était anormal ?
Je ne me rendais pas spécialement compte, j'étais dans le déni aussi, et puis il y avait tout son discours à lui. Tu te rends pas compte de la chance que t'as, toutes les femmes rêveraient d'avoir une situation comme toi, t'as vu la belle maison, tu conduis la voiture que tu veux, je te fais tous les cadeaux que tu veux, t'as jamais à demander, et tout ça dit, bon ben oui, il a raison. Oui, j'ai qu'à être plus sage, oui, j'ai qu'à être plus gentille, oui, j'ai qu'à élever ma fille autrement, il faut qu'elle soit plus ci, il faut qu'elle soit plus ça. Enfin, c'était... Ouais. Je m'endormais autant qu'il m'endormait.
Oui.
Et puis c'était tout un système de lune de miel. Si à un moment, j'avais été pas gentille d'après ses critères, et qu'il avait été, d'après lui, obligé de me taper parce que c'était... C'était moi qui me comportais mal, donc il était obligé de se comporter mal envers moi. Bah après, c'était bouquet de fleurs, cadeaux, bijoux, diamants, foulards de luxe. Enfin, c'était redéballage. Et puis, bah, quand c'est redéballage, c'est aussi autant dans la violence psychologique qui pouvait être très dure dans ses mots, autant dans ses marques d'affection, il était à l'extrême aussi. C'était des voyages, c'était des je t'aime, c'était des machins. Enfin, c'était t'es la meilleure. Je ferai jamais rien sans toi. Et enfin voilà, c'était forcément. On se dit bon bah oui, le pauvre, c'est de ma faute.
Avec en partie, si j'ai bien compris, avec une partie de votre argent quand même.
Ah ben oui.
Mais oui.
C'est tellement plus drôle.
Mais oui, mais c'est tout de même un détail important. C'est que cet homme, en fait, tu n'as pas été gentil. On a l'impression d'entendre le père qui dit à son enfant, tu n'as pas été gentil aujourd'hui. Il vous infantilisait complètement, cet homme.
Oui. Ah bah oui, j'avais pas mon salaire, j'avais de l'argent de poche. Pour lui, il me disait, ah bah, si je te donne tant d'argent par mois pour tes faux frais, c'est comme si ce sera ton argent de poche, comme ça tu t'occupes de rien, comme ça moi je m'occupe des impôts, je m'occupe des papiers, machin, toi tu t'occupes de rien, tu fais que ton travail, tu vis ta vie. Donc ça partait aussi sous couvert d'un bon sentiment quand on n'est pas habitué à ce genre de propos.
Oui. Il était plein de bons sentiments, cet homme, visiblement.
Oui.
Oui,
oui. Plein de multifacettes, au fait.
Cela vous dérange de me dire dans quelle activité c'était cette entreprise ou
Oui, c'est très particulier.
D'accord,
donc,
alors coup, on oublie.
Je suis très reconnaissante.
D'accord. Je vous posais cette question pour savoir le travail, en tout cas la masse de travail que vous aviez à faire dans cette entreprise qui correspondait à ce fameux salaire que vous ne touchiez pas. Est-ce qu'au moins il vous montrait les fiches de paye ? Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez me dire que...
Non, moi je peux rien. En plus, quand je suis partie de la maison, je suis partie sans mes papiers, sans mes fiches de paye, sans rien. Je ne sais pas comment je vais faire à ma retraite. Il me manque, Il me manque 15-20 ans de salaire. Il ne veut pas me les rendre, il ne veut pas... on a beau se battre, c'est fini maintenant.
C'est-à-dire qu'il vous manque 15-20 ans parce que vous êtes restée combien de temps avec cet homme ?
Je suis restée 19 mois avec cet homme, mais tous mes papiers, dans un éclair de lucidité, j'ai pu récupérer mon passeport parce que le bureau avait été ouvert, j'ai pu récupérer mon passeport et celui de ma fille. Mais tous mes papiers de relevé de compte, de mes fiches de paye, tout un tas de choses comme ça, je n'ai que mes fiches de paye que d'à partir du moment où je suis partie. Bon, toute alors, ma vie professionnelle d'avant, je n'ai plus rien.
Alors Estelle, déjà je vais vous rassurer sur un plan, c'est que il n'est pas difficile de retrouver la trace de tout ce que vous avez fait en tant que salarié depuis votre première fiche de paye. Donc ne vous inquiétez pas oui. là-dessus. On va continuer à évoquer oui. votre situation, cette situation de petite fille un peu, puisque cet homme vous a totalement infantilisé. Et puis on va voir comment tout cela a évolué et à quel moment vous avez eu un éclair de lucidité et que vous avez entamé ce chemin de cette fuite. On se retrouve dans quelques instants, Estelle.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
C'est toujours assez troublant d'entendre un témoignage comme celui d'Estelle, car on a l'impression d'avoir déjà entendu, réentendu cette stratégie qu'un homme peut mettre en place pour prendre le contrôle et puis pour transformer une femme équilibrée, une femme qui jusque-là menait une vie normale avec sa fille de 14-15 ans. Cet homme, Estelle, a réussi à totalement vous enfermer, vous infantiliser jusqu'à vous faire culpabiliser de la mère que vous étiez, sans doute de la femme que vous étiez, et puis les coups sont arrivés sans que vous réagissiez vraiment au début.
Oui, complètement. Parce que moi, je me disais, à la limite, je préférais qu'il s'en prenne à moi qu'à ma fille. Et puis les premiers coups, on se dit, mais c'est pas possible. En fait, je rêve, c'est pas vrai. C'est pas lui. Et puis, comme les cycles s'inversent, il y a des très longues lunes de miel. Et puis après, des tout petites phases de coups. Et puis au fur et à mesure, ça change. Et les lunes de miel deviennent de plus en plus petites et les phases de coups deviennent de plus en plus longues, en fait. Et c'est ça qui enferme. On est comme des grenouilles. Des grenouilles, vous la mettez dans de l'eau bouillante, elle se sauve. Une grenouille, vous la mettez dans l'eau froide, vous mettez le feu en dessous et puis elle se laisse cuire, elle ne sent pas la chaleur monter. Nous, c'est ça.
Vous disiez que l'entreprise des parents de ce monsieur était dans une région qui vous était étrangère. Cela veut dire que vous n'aviez aucune personne, en tout cas aucune relation autour de vous, en tout cas visible.
Ah oui, plus aucune. Et puis il avait fait le ménage avant, en fait. Il avait fait le ménage avant. Il avait un discours pour moi, il avait un discours pour ma fille, il avait un discours pour ses parents, un discours pour le peu de famille qui me restait. Et moi, je me souviens d'avec une collègue où je déjeunais avec elle le jeudi. Et ben, au fur et à mesure, ben, il venait pour le dessert. Après, pourquoi pas venir qu'à l'apéro? Puis en fait, pourquoi partir à l'apéro alors que je suis là? Il s'est immiscé dans tout. Et avec cette collègue, il lui a raconté des bêtises aussi. Et voilà, au fur et à mesure, plus personne voulait me parler parce qu'il a distillé son venin partout, en fait.
Est-ce qu'il était jaloux?
Donc, moi, oui, très. Très, j'avais des mouchards sur mon téléphone, sur celui de ma fille. Toutes les conversations étaient épiées, écoutées, les déplacements vérifiés. Enfin, c'était et pourquoi t'es là, et pourquoi t'es parti, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et ton patron, pourquoi il te parle comme ça. Il a tout dénigré. Quand je partais en formation en région parisienne, je me souviens d'une formation à Chartres. Où je devais rester parce que c'était plus pratique pour moi de partir que le samedi matin parce que c'était plus confortable après une semaine de boulot de partir après s'être reposé gentiment à l'hôtel. Il était là le vendredi soir à l'hôtel pour vérifier que j'étais bien dans cet hôtel-là et pas avec personne et que je partais bien le lendemain matin. C'était voilà. Il me faisait des surprises, il me disait qu'il n'allait pas rentrer là, puis en fait il rentrait ce jour-là. comme ça, ils pouvaient me surprendre si j'étais bien là où je disais, si je faisais bien ce que je disais. Enfin, c'était... Voilà, c'était...
Est-ce qu'autour de vous, en tout cas, est-ce que vous aviez au moins une meilleure amie, un frère?
Non, plus personne. Non, plus personne. Plus personne. Au moment du départ, j'avais vraiment plus personne. Et là, aujourd'hui, même ma famille, j'ai plus de famille. J'ai encore deux frères, j'ai un oncle, une tante, c'est pas des gens, il y a la honte et puis il y a eu le rejet aussi, parce qu'il a fait tellement de mal autour de moi que ces gens-là veulent plus me parler.
C'est un grand classique de rêver, hein, de vous faire rêver, moi j'ai le droit, tout à l'heure vous disiez moi j'ai le droit, quand j'ai rencontré cet homme, je me suis dit pourquoi pas moi, j'ai le droit d'être aimée, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'avoir une belle vie. C'est vraiment ce que cet homme vous a fait miroiter longtemps, en fait, puisque vous parlez de lune de miel après les coups. Cette lune de miel, à partir de quand vous n'y croyez plus, en fait?
Bah, à partir du moment où on a vraiment déménagé, où vraiment je suis déracinée de tout, et où je me dis, là, j'ai fait une connerie, quoi. Là, je me suis vraiment dit, j'ai fait une connerie, mais je peux pas m'en sortir, j'avais pas les moyens psychiques et... physique et économique de m'en sortir. Donc je me dis, bon, bah là, je vais essayer d'être gentille, comme il dit, je vais essayer de faire plein de choses pour faire le dron, en fait. Je me dis, ça se trouve, oui, il a raison, ça se trouve, c'est moi qui fais pas ce qu'il faut, ça se trouve, je me rends vraiment pas compte de ma chance. Et voilà.
Parce que nous sommes d'accord que cet homme, vous avez donc supprimé carte bancaire et qu'il avait le contrôle total de vos finances, en fait.
Oui. Mais des fois, il m'emmenait, viens, ça s'est bien passé cette semaine, viens, on va se promener dans tel centre commercial, t'auras le droit de t'acheter tout ce que tu veux, t'as été cool, on a passé une bonne semaine. Donc c'était la carotte, le bâton. Donc je me disais, bon, ça se trouve, s'il a raison, c'est moi qui ne me comporte pas correctement.
Mmh. Alors, il y a toujours aujourd'hui une grande fille, hein, qui va avoir bientôt 19 ans, mais à l'époque, cette petite, elle a 14 ans. Est-ce que souvent, dans ces histoires, les enfants sont au milieu, hein, les enfants sont de vraies éponges, ces enfants, eh bien, ils prennent des coups aussi, hein, des coups au cœur, des coups dans leur spirit, en fait. Et comment elle vivait ça, votre fille? Elle se rendait compte de... votre souffrance, est-ce qu'elle évoquait cela avec vous?
Elle se rendait parfaitement compte, mais après, on n'avait pas beaucoup de moments tête à tête. Avec ma fille, on avait une relation très, très symbiotique avant son arrivée. Et lui s'est mis au milieu, il ne comprenait pas pourquoi d'un regard on se comprenait. Et il s'est tout de suite mis en tête, il était même jaloux d'elle. Et moi, je me souviens de ma fille, dans quelques fenêtres temporelles où on arrivait à se reconnecter. Elle était partie en voyage en Italie, en voyage scolaire en Italie. Elle me dit, maman, ça a été le pire voyage de ma vie parce que pendant 5 jours, j'ai cru que quand j'allais rentrer, on allait me dire que t'étais morte. Donc ça aide à avoir le déclic. Et puis quand votre fils met entre vous et cet homme-là, en hurlant, arrêtez, ça aide à avoir le déclic. On n'a pas le déclic, mais quand on se prend ça dans les dents, on se dit, oh là, il faut faire quelque chose, quoi.
Sur le moment, en fait, lorsque il y a ces violences, alors, lorsque, si je vous fais parler de cela, hein, c'est que j'évoque souvent, je dis souvent au début de l'émission et tout au long de l'émission, je dis que partager et évoquer, hein, sa vie comme ça, c'est bien évidemment déposer quelque chose. Nous échangeons tous les deux, mais je pense toujours à celles, dans votre cas, là, celles qui nous écoutent et qui vivent, qui traversent la même aventure que vous en ce moment. La mésaventure, je dirais. Qu'est-ce qui fait rester, en fait, là, dans votre cas? Qu'est-ce qui ne vous fait pas réaliser que vous êtes en danger de mort? Parce que lorsque on prend des coups, j'ai souvent évoqué ça aussi avec... toutes les femmes que j'ai croisées et qui me racontaient toutes ces violences, à chaque coup, en tout cas à chaque épisode violent, on risque la mort. Vous voyez, vous me dites que votre fille, du haut de ses 14 ans, y pensait visiblement beaucoup plus que vous. Comment expliquer que vous, ça soit venu beaucoup plus tard, ce sentiment d'insécurité et de peur.
Isolement complet, isolement physique, parce qu'il m'avait aussi un jour de colère, et il m'a dit « c'est bon, maintenant tu rentres ». Il m'a pris mon portefeuille, mes clés de maison, mes clés de voiture, alors que j'étais au travail, et il m'a fait traverser l'entrepôt devant tous les employés pieds nus. Et je savais qu'il était littéralement capable de me mettre pieds nus à la rue. Quand il me disait « tu finiras à poil à la rue avec ta sale gamine », je savais qu'il en était capable. Ouais. Donc je préférais me prendre les coups que d'imposer à ma fille. Entre deux mots, pour moi, je choisissais le moindre entre laisser ma fille me voir comme ça, parce que pour moi, à ce moment-là, je ne pensais pas que j'allais mourir, que plutôt que de qu'elle finisse avec moi dans un foyer ou... Voilà, en plus, moi, je me faisais des idées sur des foyers où j'allais finir avec des personnes dans des situations encore plus dramatiques que la mienne. Et je me dis, je veux pas que ma fille voie ça. Donc, pour moi, je préférais qu'on soit dans notre belle maison avec son collège où elle avait ses copines, ses études, tout ça. Et puis, tant pis si elle me voyait mal, que de l'arracher à tout ça. Et puis, au moins, quand elle était à l'école, elle était en sécurité, quoi. Et quand elle était dans sa chambre, il l'anticipait pas. Et une fois, il m'a dit, il élevait le machin. Je dis, mais de quoi tu parles? Le machin, là, le truc au bout du couloir. Mais je comprenais pas de quoi il parlait. Il parlait de ma fille, quoi. Le truc au bout du couloir, c'était ma fille. Donc je me dis, tant qu'il la traite comme ça, bah, avec dédain, je me dis, voilà, il l'emmerdera pas.
Ouais. Vous aviez l'impression de vous sacrifier un peu pour justement
oui.
que votre fille, qu'il la laisse tranquille, au moins elle.
Voilà, au moins elle. Et puis si moi, je devais serrer les dents, si je devais éponger mes larmes ou cacher certaines choses, ben moi, ma fille, elle avait un lit, elle était dans sa chambre, elle avait son petit confort, quoi. Mais en fait, le confort, on l'a reconstruit autrement après. Et le confort psychologique qu'on a eu après, le calme du studio protégé qu'on a eu, ça n'a pas de prix. Mais au moment où, quand on est en plein dedans et qu'on est isolé physiquement, économiquement, on ne se dit pas qu'il y a des solutions. On ne les connaît pas. L'endroit où on vivait dans cette belle maison, c'était dans la rase campagne. Donc, du coup, c'était difficile pour moi d'imaginer qu'il y avait des solutions si près et si accessibles, en fait.
Anna nous écrit au 739-21. J'ai vécu la même chose qu'Estelle, avec des menaces de finir nue dans la rue, comme une moins que rien, jusqu'au jour où il m'a tapé plus fort que d'habitude et où j'ai réalisé que la prochaine fois, j'allais mourir. Et j'ai fini par partir pieds nus dans la rue et je ne suis jamais revenu avec mes deux enfants sous le bras. On va évoquer le moment où vous avez eu ce déclic, vous aussi, Estelle. On se retrouve dans quelques instants ?
Oui.
À tout de suite.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
La même stratégie mise en place tout le temps. Des mots que l'on a déjà entendus à travers ces témoignages de femmes qui nous raconte ces scènes de violence, ces scènes d'emprise, et puis cette même culpabilité, cette même impuissance dont vous parlez, Estelle, cette impuissance qui vous a gagné jusqu'à penser que vous étiez la proie de cet homme et que sans lui, il était impossible d'envisager quoi que ce soit. À quel moment vous avez eu un déclic ? À quel moment vous vous êtes dit... Il faut que je parte, là.
En fait, en fin d'après-midi, un soir de juillet, on avait un rendez-vous médical. Et d'après lui, devant le médecin, je ne me suis pas comportée comme il pensait, comme il voulait. Et en rentrant, j'ai pris plus cher que d'habitude, où là, je me suis vraiment évanouie. Il m'avait étranglée avec son avant-bras. Et quand je me suis réveillée, il m'a dit, moi, je m'en vais, je vais chez mes grands-parents. Quand je reviens, je veux que tout soit tranquille dans la maison. Et en fait, c'était tellement tranquille dans la maison que moi, pendant le temps qu'il est parti, j'ai dit à ma fille, le plus vite possible, on plie nos affaires, on se sauve, quoi. J'ai mis mon chat dans sa caisse, j'ai rempli ma voiture avec le plus d'affaires que j'ai pu. J'ai prévenu ma fille, je dis ce soir, je sais pas où on dort. La veille, j'avais contacté la gendarmerie parce qu'il m'avait menacé, qu'il avait mis porté plainte déjà contre moi. Donc j'étais allée à la gendarmerie pour anticiper. Je me dis, mais pourquoi il a porté plainte contre moi? Et là, les gendarmes m'ont dit, mais non, madame, vous inquiétez pas, il n'y a pas de plainte contre vous. Par contre, vous nous inquiétez beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'avais organisé par rapport à son emploi du temps à lui, j'avais organisé une entrevue avec quelqu'un qui s'occupe d'une cellule femme-enfant, avec un gendarme spécialisé qui était venu m'écouter et qui m'avait dit, bah, à partir de demain, vous venez porter plainte. On va organiser un accueil pour vous et votre fille, il faut venir jusqu'à demain. Sauf que le soir même, ça a répété. Donc là, j'ai dit tant pis. Je suis partie, j'ai bourré ma voiture de toutes les affaires et je suis allée à la gendarmerie. Et j'ai déposé plainte pendant plus de 5 heures. Ils avaient la gendarmerie de cet endroit-là n'avait jamais pris plainte pendant autant de temps. N'avait jamais entendu quelqu'un pendant autant de temps.
Et ce même gendarme était là ce soir-là?
Oui, il avait été prévenu, mais un peu plus tôt. Mais du coup, il s'est rendu disponible pour nous écouter, ma fille et moi, puisque ils ont aussi entendu ma fille. Ils l'ont bien mis à part quand on a parlé des violences sexuelles. Ils ont fait attention à tout. Ils ont été super, quoi. Tomber sur des gendarmes formés qui savent écouter, c'était maintenant avec le recul, c'était quelque chose de. Dans cette mésaventure, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de points où j'ai eu beaucoup de chance.
Il y a de plus en plus de gendarmes formés aujourd'hui.
Oui.
Ça, c'est une évidence. Il y a 10 ans, on avait du mal à franchir le palier d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus formés à accueillir ces victimes, comme vous l'étiez. Lui, en fait, est-ce qu'il est appréhendé parce que il a tenté de vous étrangler? Il vous a...
Alors non, pas sur le coup. Enfin, il est convoqué à la gendarmerie le lendemain. Et là, moi, toute la nuit, j'ai des appels et des appels et des appels. Et il me dit, de toute façon, mon avocat, il est en vacances en Nouvelle-Calédonie. Il va être obligé de revenir pour me représenter. Tu payeras son voyage. J'ai été menacée sous toutes les formes possibles. Là, à partir du moment où j'ai porté plainte, en fait, j'ai porté jusqu'à 5 fois plainte contre lui en je sais plus en combien de temps, mais j'ai eu jusqu'à 800 appels par jour, des messages, il y a tout le temps où on subit, et après, il y a tout le temps où on part. Et là, on est autant en danger. C'est pas parce qu'on est sorti du domicile qu'on pourrait dire conjugal qu'on n'est pas en danger. Parce que moi, il est revenu m'agresser dans le hall de la résidence protégée.
Alors, on est allé un peu vite. En fait,
ouais,
vous portez plainte pendant 5 heures, vous déposez donc auprès des gendarmes. Et vous êtes orienté. Est-ce qu'ils vous trouvent une résidence le soir même où vous et votre fille...
Alors, le soir même, ils me trouvent un studio d'urgence.
Oui.
Voilà, donc pendant, en plus c'est tombé sur un tout début de week-end, ça devait être un vendredi je crois, donc du coup pour me trouver une solution plus pérenne, c'est arrivé que milieu de semaine d'après. Et là on a été un petit peu baladé dans la proche grande ville voisine, où on a fait des sauts de puce un petit peu partout, on a changé 2 fois de lieu de vie.
En cavale,
Oui, c'est ça. À vider la voiture, à la recharger, à la revider, à la recharger, en étant sous pression sans arrêt, à guetter les gens qui passent, qui arrivent autour de nous, si c'est pas lui, s'il nous a pas retrouvés, on n'a pas pu se terrer, en fait, on a été déplacés, et voilà. Après, on nous a trouvé quelque chose d'un tout petit peu plus pérenne pendant tout l'été, et à la rentrée, on a eu quelque chose qui nous a sauvés pendant un an.
Est-ce que vous avez été mise au courant? Est-ce que cet homme a été appréhendé à un moment, entendu? Parce que vous me disiez il y a quelques secondes qu'il était venu vous agresser dans votre résidence, protégé. Il avait sans doute en plus été informé par les autorités qu'il avait interdiction de vous approcher, cet homme.
Oui, je pense que oui. Je pense que la justice a bien fait son travail. Mais j'avais toujours mon ancien téléphone donc sur lequel j'avais des mouchards. Donc je me suis auto-mise en danger, en fait. Dès qu'on part, il faut tout laisser derrière. Le téléphone, c'est le plus important, en fait. Il faut noter sur un papier les numéros importants et tout laisser derrière soi, parce qu'ils sont capables de mettre des mouchards sur les voitures, sur les téléphones des enfants. Et moi, c'est ce qui m'a joué un mauvais tour. Il m'a suivi partout. Il me disait qu'il ne me trouvait pas, mais il savait très bien me trouver tout le temps, en fait.
C'est terrible, hein, ce que vous racontez, parce que... Et en même temps, il faut vraiment prendre note de ce que vous dites, parce que ça n'est pas la première fois que j'entends aussi ça. Lorsqu'on part, il est important de laisser déjà le téléphone, parce que ce téléphone, il est susceptible d'avoir été trafiqué, et comme vous dites, on peut y avoir mis un mouchard, un GPS qui donne à la seconde près l'endroit où vous êtes. C'est ce que cet homme avait fait.
Oui, sur le mien et sur celui de ma fille. Donc il était au courant de nos conversations, de nos mouvements, il était au courant de tout.
Oui. Est-ce que lorsqu'il vous a agressé, il a été appréhendé à nouveau? Est-ce que il a été...
Non, parce qu'il était reparti. Il était reparti. Moi, c'est un voisin qui m'a recueilli quand il m'a entendu crier au secours à l'aide, parce qu'il m'a poursuivi. Il y a deux entrées dans cet immeuble. Il y a une entrée via vers le parking derrière. C'est pas un parking souterrain, c'est un parking extérieur, mais il y a une entrée vers les sous-sols. Et moi, il m'a poursuivi dans les étages. Et après, je savais qu'une fois que j'allais être dans l'ascenseur, il y a un code à faire pour monter qu'à l'étage protégé. Mais j'ai pas réussi à arriver à l'ascenseur. Il m'a attrapé le poignet. Il a retenté de me reprendre le téléphone. J'essayais d'appeler la police en même temps que je me faisais agresser. Et là, si le voisin n'était pas arrivé, je sais pas ce qui se serait passé. Parce qu'il était de nouveau en train d'essayer de m'étrangler.
Vous avez...
Mais avant que les pompiers, le voisin appelait les pompiers, il était reparti. Il était venu avec son père, avec la voiture de son père. Et le temps que les secours arrivent, malheureusement, lui, il s'était sauvé.
Oui. Où est-ce que... Alors, à partir de quel moment vous avez eu un semblant de calme et dans quelles conditions?
Alors, le calme, il est arrivé beaucoup plus de temps après, à force de reprendre une petite routine, de se protéger, de se cacher, de sortir avec des grands chapeaux pour pas qu'on me reconnaisse. À partir du moment où j'ai vraiment appliqué nos contacts, où j'ai changé de téléphone, où j'ai coupé les réseaux sociaux... À partir du moment où ma fille a fait sa rentrée, moi je l'ai mise à l'internat exprès pour qu'elle ne soit pas exposée matin et soir dans les transports en commun. Au moins du dimanche soir au vendredi après-midi, elle était en sécurité dans son lycée. À partir de là, une fois que ma fille était en sécurité et que moi j'étais prise en charge par l'association, ça s'est fait vraiment mais une heure après l'autre, quoi. C'est pas un jour après l'autre, c'est une heure après l'autre que le calme, on le récupère. Et encore, en deux minutes, ça peut rebasculer. Un cauchemar, un bruit, une odeur, ça peut être n'importe quoi. Une voiture qui y ressemble, une immatriculation. Dès qu'on sort, si on n'a pas des espèces de protection de pacotille, comme une perruque, un chapeau, un
casque. On se sent comme traqué. En permanence.
C'est ça.
Je sais que vous avez vécu pendant un an avec 270 euros par mois. On peut donc imaginer à combien ça a été difficile. Comment vous allez aujourd'hui? D'abord, comment va votre fille? Et comment vous vous sentez? Est-ce que la stabilité est de retour dans votre vie? Parlez-moi de vous aujourd'hui un peu.
Alors, moi aujourd'hui, ma fille fait toujours ma fierté. Elle attaque sa deuxième année de BTS, elle est dans une autre région, elle suit la filière qu'elle a toujours voulu suivre dans l'hôtellerie. Elle a d'excellents résultats, elle a eu son bac avec mention, enfin, Elle a un petit copain avec qui ça se passe bien. Ils vont vivre ensemble là très prochainement. Et puis ben moi après une année où ça a été impossible de travailler parce que entre avocat, consultation à la médecine légale pour faire attester tout un tas de blessures, même si j'ai voulu retravailler tout de suite, au final je me suis rendu compte que j'en étais pas capable parce que j'étais pas calme physiquement. Je stressais pour un rien. Si j'étais avec des clients, je paniquais à l'idée que ce monsieur fasse partie de la clientèle. Enfin, il m'a fallu un an. Après, j'ai retrouvé un CDD d'un an avec une formation à la clé. Mais je suis retournée dans le milieu dans le milieu automobile dans lequel j'étais avant que cet homme-là arrive dans ma vie. En fait. Et là, ça fait deux ans, presque deux ans et demi que je suis en CDI. Et que voilà, je récupère des responsabilités que j'avais avant de le rencontrer.
Est-ce qu'il vous faut enfin la paix, cet homme ? Est-ce que la justice a réussi à l'éloigner définitivement ? Est-ce que vous pensez qu'il est passé à autre chose ?
Moi, j'ai pas de nouvelles de lui, puis j'en veux pas. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au procès. Procès, pareil, qui s'est passé, c'est un moment atroce. Vous revivez quatre fois dans la même après-midi l'histoire, parce que il faut répéter du point de vue de l'un, de l'autre, répéter les faits. Enfin, c'est le procès.
A été condamné, cet homme ?
Oui. Alors, le procureur avait demandé 6 mois et il en a eu 8 avec sursis, puisque c'est la première fois que c'était la première fois qu'il se faisait attraper. Mais voilà. Après, je ne sais pas ce qu'il advient de lui.
Ce qui est important aujourd'hui, Estelle, c'est ce qu'il advient de vous. CDI, la deuxième année de BTS pour votre fille.
Et puis un chéri, j'ai un super chéri.
Et alors voilà, c'est très important ça. Et un nouveau chéri, gentil.
Oui. Hein. Gentil, le Wonder Chéri, je l'appelle.
Merci pour ces mots, merci pour votre histoire, merci pour votre courage, parce qu'il est ce soir encore l'exemple, cet exemple de courage. Eh bien, il souffle comme un vent de liberté pour toutes celles qui vous ont écouté ce soir et qui traversent le même type de mésaventure. Parce que voilà, c'est possible de recommencer, c'est possible de se reconstruire. Et vous en êtes la preuve vivante. Mille merci, Estelle.
Je vous en prie.
Et portez-vous
bien. Bon courage à toutes.
Merci. Au revoir.
Bonsoir.